Élise, ce matin, eh bien, vous avez comme invité Roby Herskovitch, historien de son état, et il va nous parler de quoi exactement ? Dites-nous tout.
Il va parler des familles juives qui ont fait la jeune Belgique du 19e siècle. Bonjour Roby.
Bonjour Lise, mais je ne suis pas historien, je suis juste un curieux. Et vous savez Lise, le temps passe. Le temps passe parce que dans quelques années, on va marquer les 200 ans de la Belgique indépendante. La Belgique indépendante où un Joseph Oppenheim, juif d'origine allemande, était un chevalier dans la cavalerie belge qui a combattu et finalement au dernier combat à Louvain, d'ailleurs en août 1831. Et ceci est un petit détail qui est ignoré, c'est-à-dire c'est l'indépendance, mais le judaïsme juif de Belgique, aujourd'hui, qui a son ordre du jour, souvent ne donne pas assez la perspective de ce que le judaïsme représentait pour la jeune Belgique du 19e siècle. Vous savez, Jacques Brel, dans Bruxelles, qui bruxelait, et les dames en crinoline. Mais les dames en crinoline, où elles allaient acheter leur crinoline ? Elles allaient à la galerie du commerce. En fait, en haut de ville, il y avait les galeries Hirsch. C'était the place to be. C'était là que, entre autres, la bourgeoisie de Bruxelles se fournissait des meilleurs articles et des fines robes, etc., etc. Et vous savez, si on se demande est-ce que c'est important ou pas, on connaît tous la place du jeu de balle au Marol. Mais si vous parlez à un Bruxellaire de souche, il ne dit pas la place des Marol ou de Het Vossenplein. La place en flamand, c'est un autre nom. Mais en fait, les Bruxellois, ils appellent ça Hirschparterre. Hirsch, comme les galeries du haut de ville, mais parterre, en bas. Donc, les belles dames vont s'acheter les crinolines en haut de ville et le peuple achète ce qu'ils achètent au Marol. Et donc, si on recourt Bruxelles comme cette place au Marol, il y a beaucoup de présence juive, on en a parlé déjà souvent dans tout Bruxelles. Hein, quand on commence de la place Poulard et quand on redescend l'avenue de la Régence et on arrive par exemple à la place Royale où sur son cheval perché se trouve Godefroy de Bouillon, à une époque où on déboulonne les statues de Léopold II, on passe outre au fait que Godefroy de Bouillon et son frère Baudouin ont sur leurs mains le sang des musulmans et des juifs de Jérusalem des premiers croisés. Mais nous allons plus loin que la place Royale et nous arrivons au parc de Bruxelles et à gauche, nous avons une belle maison de maître qui est en fait aujourd'hui la résidence du ministre-président de la Flandre. Mais cette résidence s'appelle en fait Hôtel Herrera. Hôtel Herrera, oui, de la famille Herrera. Herrera, ou avec un H, Herrera, est en fait un nom de famille typiquement séfarade des juifs espagnols qui ont dû se convertir ou quitter l'Espagne à la fin du XVe siècle. Et donc, nous retrouvons rue Royale, aujourd'hui, ce bel hôtel qui était en fait la mention de la famille Herrera. Qui est la famille Herrera ? Nous rencontrons Giacomo Herrera, juif, jeune juif italien de Venise, d'une famille de banquiers de Venise, qui était aussi mêlé à la révolution en Italie, mais ce n'est pas ça le sujet maintenant. Et donc, Giacomo Herrera épouse à Bruxelles la fille de ce chevalier Joseph Oppenheim, qui est devenu un industriel et un banquier après l'indépendance. Et il s'installe d'abord ailleurs, avenue Marnix, mais finalement, ils font l'acquisition et ils s'installent dans cette maison Herrera. Et ce Giacomo Herrera, qui est très actif dans beaucoup de domaines et qui est parmi les fondateurs de la Banque de Bruxelles, qui plus tard deviendra la Banque Bruxelles-Lambert. C'est un nom qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui dit beaucoup à beaucoup de Belges qui ont grandi en Belgique dans la fin du XXe siècle. C'est aussi une personne, notre Jacques, Giacomo est devenu Jacques Herrera, qui était parmi les fondateurs des tramways de Bruxelles, aujourd'hui la STIB, aussi actif dans les chemins de fer. Il ne faut pas oublier le rôle des chemins de fer dans la Belgique du 19e siècle. Et donc, vous voyez le rôle central de ces entrepreneurs juifs, souvent immigrants, Jacques qui vient d'Italie, Joseph Oppenheim qui vient d'Allemagne, la banque.
Justement, Roby, j'allais vous demander, on a l'impression que l'atmosphère de Bruxelles à cette période est très attractive, que c'est souvent aussi des intellectuels juifs qui viennent, parce que notamment à l'Université libre de Bruxelles, ils n'ont pas les quotas qu'on peut trouver ailleurs en Europe et notamment en Allemagne.
Oui, mais il y a beaucoup de rapports. Il ne faut pas oublier la Constitution belge qui était précurseur en 1831, qui octroyait toutes ces libertés-là. Et on sait très bien ce qui se passait ailleurs en Europe. Les Juifs d'Alsace qui sont venus créer ce qui est devenu plus tard les galeries de l'innovation, ils ne faisaient pas bon vivre en tant que juif en France dans l'ère de Dreyfus et après. Ceci pour donner un exemple, il y en a encore d'autres, Leonhard Titz d'Allemagne qui a créé les grands marchés, mais nous allons revenir à notre famille Herrera qui donc se trouve à côté du parc de Bruxelles, à côté du palais royal, ouvre ses portes, ouvre ses salons et entretient là-bas chaque mercredi soir un salon où tout le beau monde intellectuel et le monde des affaires de Bruxelles se retrouve. Et nous retrouvons là-bas non seulement chez Giacomo, mais aussi chez son fils Léo Herrera, qui était botaniste, et son frère Paul Herrera, qui était juriste, et tous les deux éminents intellectuels à l'ULB. Paul Herrera devient recteur avant la Première Guerre mondiale. Paul Herrera devient le bourgmestre d'Uccle pendant 10 ans, de 1912 à 1921. Donc, vous voyez la centralité sociale de une famille parmi d'autres. Je n'ai pas mentionné la famille Bischoffheim, dont on a jusqu'aujourd'hui l'Institut Bischoffheim à Bruxelles, et d'autres noms qui sont connus. Paul Herrera et son épouse sont actifs dans la résistance de la Première Guerre mondiale. Et aussi dans les arts, Isabelle Goldschmidt, sa femme, est très active aux Beaux-Arts et très active dans les cadres, dans les cercles artistiques, le 20e, la libre esthétique. Ce sont des activités dans lesquelles on voit une centralité de ces éminences juives qui ne reposent pas seulement sur leurs affaires, ils font partie sociale, ils font aussi partie d'œuvres charitables. Et dans leur salon, aussi leur fils Jacques Herrera, qui vécu au XXe siècle, était un éminent scientifique dans le nucléaire. Il accueillait chez lui Albert Einstein, il reçut le prix Franke en 1938. Et dans ces salons-là, on retrouve Weizmann, Adorno, Paul Valéry, Paul Claudel et même le roi Baudouin.
Donc, Robbie, il nous reste qu'une minute et c'est aussi à Bruxelles que Karl Marx vient se réfugier en 1845 et qu'il oui, rencontre cette communauté et le philosophe sioniste Moses Hess.
Absolument. On ne peut jamais assumer qu'ils vivent dans des vases clos. Mais ça, c'est pour une autre conversation. Et avec ça, on clôture ce rapide parcours de cette famille fabuleuse, la famille Herrera, qui vécut à Bruxelles et dont on retrouve encore aujourd'hui rue Royale, l'hôtel Herrera, qui est la résidence du ministre-président de la Flandre.
Robert Skovitch, merci beaucoup pour cette carte postale de Belgique, toujours intéressante. Et si vous voulez, on reviendra sur le 19e siècle, parce que moi aussi, j'avais d'autres questions sur cette communauté belge juive de cette période. Shana Tova, à très vite, Robbie.
À très vite, Roxamère, à bientôt.